Alors, c'était le violoncelliste Stéphane Tétrault qu'on entendait dans Méditation de Thaïs. Bonne nouvelle en ces temps où le milieu de la musique tourne au ralenti. Le docteur Peter Forbes lance une agence qui prend sous son aile des artistes de la relève œuvrant en musique classique. Il est avec nous. Bonjour, docteur Peter Forbes.
Bonjour.
Merci.
Comment allez-vous?
Ben, ça va bien. Merci. Et vous?
Très bien, surtout je viens d'entendre la méditation de Thaïs avec Stéphane, ça replace toujours un matin.
Ah oui, c'est vrai hein, que ça nous recentre. Alors, oui, ben, je suis très heureuse de vous parler, c'est une première pour moi et pour vous aussi, à Canalem, je crois.
Oui, absolument.
Oui? Et j'aimerais avant tout que vous nous parliez un petit peu de vous, parce que vous avez un beau CV. Vous avez été médecin officiel de l'Opéra de Montréal et l'Orchestre métropolitain également. Comment on devient le médecin des chanteurs d'opéra et des musiciens?
Oh, ben, dans mon cas, je pense que c'est très individuel selon les endroits. Dans mon cas, c'est parce que j'étais choriste à l'opéra à ce moment-là.
Ah oui.
Et donc, c'est un peu plus pratique quand on est sur place. Évidemment, je n'étais pas toujours sur place. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait avant même les répétitions. Des fois, quand les gens arrivent sur l'avion, ils veulent déjà savoir ce qu'ils vont faire à propos de leur voix. Surtout pour les chanteurs, c'est un petit peu anxiogène.
Ah oui.
Et donc, oui, comme j'étais là, ben, c'est Bernard Huzan à ce moment-là qui m'avait demandé d'être... le médecin de l'opéra. Et je suis resté assez longtemps. Avant ça, à l'OSM, on m'avait demandé dans les années 80 de faire une tournée, mais j'avais pas pu. J'avais recommandé le docteur Yves Weber. Et ça s'est bien passé, tout ça. Ensuite, j'étais dans les concours de musique, le CMIM, pendant un bout de temps. Mais vous savez, c'est pas quelque chose qui est à temps plein. Mais c'est quelque chose qui nous donne qui nous rapproche de ces organismes-là, qui nous permettent d'entendre beaucoup d'opéras et de participer en tant que médecin.
Vous avez parlé de l'OSM, mais aussi, vous avez été médecin pour l'Orchestre métropolitain?
Oui, aussi, je suis encore...
Ah, vous l'êtes toujours?
C'est-à-dire que je suis un médecin à la retraite, et puis quand on fait des... ici à Montréal, je ne peux pas être médecin pour les musiciens, de toute façon, ils ont leur médecin, mais c'est-à-dire qu'en tournée, on peut quand même être médecin conseil, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas la médecine, vu que notre permis de pratique, de toute façon, n'est pas valide à l'étranger. Ce qu'on fait, c'est qu'on est là sur place pour dire, bon, voici ce qu'on devrait faire. Et puis, soit qu'on va à l'hôpital ou qu'on fait des choses, mais ça rassure les musiciens de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut quand même faire prendre les premières décisions ou aider à diriger les choses.
J'imagine que vous aviez la chance et que vous l'avez toujours, la chance d'assister aux concerts ou aux opéras.
Ah oui, c'est certain. En tant que médecin, vous voulez dire?
En tant que médecin.
Oui. Oui, bien, ça veut dire que j'y vais surtout en tant que, des fois, choriste.
Vous continuez de chanter?
Oui, je continue encore à chanter, surtout avec l'Orchestre métropolitain, en fait, mais parfois, il y a d'autres contrats qui se présentent.
Ouais.
Ça fait déjà 20 ans, je pense, que je suis membre de l'Union des artistes.
Vous êtes dans quel pupitre?
Bariton.
Ah oui?
Oui, même si ma prof m'a entraîné comme ténor aussi, parce que c'est pas mauvais, mais donc en public, je préfère chanter comme bariton.
Bon.
Mais oui, ça nous permet d'assister à tout ça. Maintenant, comme agent aussi, c'est sûr que là, ça me permet d'assister à beaucoup de choses, mais ça n'a jamais été un problème. J'étais abonné à l'OSM quand j'étais tout petit, puis ensuite à l'OM et puis à l'opéra, etc.
Ah oui, donc la musique classique a toujours fait partie de votre vie, de vos intérêts?
Ah oui, et même, je vous dirais, génétiquement, parce que mon arrière-grand-père insistait pour que ses 9 enfants fassent un petit orchestre les samedis soirs. Imaginez que ça leur tentait peut-être pas, mais oui, la musique, ça a commencé là. Disons,
oui, quand c'est une obligation, on aime moins ça, mais à un moment donné, ça peut prendre une autre tournure. Alors, est-ce que je vous appelle docteur ou monsieur Forbes?
Oh, non, maintenant, on va m'appeler Peter.
Peter.
Parce que finalement, je suis Peter Forbes et je suis l'agent, là, finalement.
OK. Je pensais que j'aurais parlé avec quelqu'un avec un petit accent anglophone, peut-être, parce que Peter Forbes.
Oui, excusez.
Ça sonne anglo.
Mais en effet, mon père est anglophone, était anglophone, un nom très écossais, d'ailleurs. Ma mère s'appelait Madeleine Bienvenue. Alors, vous imaginez que ça, c'est plutôt québécois ou français. Et mon arrière-grand-père s'appelait Tancrède Bienvenue, imaginez.
Tancrède, c'est un prénom très, très rare, ça.
Oui, c'est presque un prénom d'opéra parce que Tancredi.
Ah oui.
Il y a plusieurs opéras qui s'appellent Tancredi.
Alors, c'est Tancrède là, qui obligeait les enfants à jouer de la musique.
C'était, Voilà, et c'était un des fondateurs de la Banque provinciale, qui est un peu, c'est un peu drôle maintenant, quand on y pense, une banque qui est devenue la banque, une partie de la Banque nationale.
Eh bien.
Alors, il était très intéressé par la musique. Je jouais de l'orgue, d'ailleurs, à Basilique Notre-Dame.
Ah oui.
Puis mon grand-père, par la suite, est devenu président de l'OSM pendant un certain temps, et avec Pierre Béhé, qui avait engagé justement Zubin Mehta en 63, je pense. Et ça, moi, on en parlait beaucoup dans la famille. Et puis ma mère, elle a dîné avec eux, puis elle les trouvait très sympathiques. Mmh. Aussi avec George London, qui est un Montréalais, un grand bariton montréalais, qui est malheureusement décédé maintenant, mais qui a fait une grande, grande carrière.
Belle histoire.
Et donc, on oublie à Montréal, on a eu beaucoup de musique classique et c'était très intense pendant un certain temps. Puis à l'Expo 67, moi j'avais 12 ans, mais j'ai vu à presque tout. Et je peux vous dire que c'est incroyable. J'ai vu Herbert von Karajan diriger la Bohème dans le cycle que la Scala a présenté à Wilfrid Pelletier. Et puis quand je disais aux gens, mais vous savez, j'ai vu Karajan à Montréal, mais ben, où? Ben, à Wilfrid Pelletier. Et puis les gens ne pensent pas qu'on a eu des gens comme ça. Pierre Béhic avait amené à un moment donné Bruno Walter à Montréal pour diriger l'OSM dans les années 50, je pense.
Et vous avez été vraiment chanceux, hein?
Oui. Ah oui, moi j'ai été privilégié de ce côté-là, de pouvoir être exposé à autant de musique aussi jeune et autant de productions incroyables. Le Bolshoï à Montréal, encore à Wilfrid Pelletier, faire Guerre et paix de Prokofiev, pas quelque chose qu'on voit tous les jours.
Non. Ça reste en soi, ces moments-là.
Ah oui, ben je ne les oublierai jamais.
Non.
C'est fou, hein? C'est drôle. Je pense que c'est une forme de syndrome post-traumatique en quelque part, mais dans le bon sens.
Un beau syndrome.
Mémoire. Mais ça dit oui, parce que c'est ancré dans notre mémoire tellement c'est quelque chose de spécial, tellement
oui.
C'est exceptionnel.
Ça reste gravé. Alors,
oui.
Peter, comment est née l'idée de lancer une agence artistique en temps de pandémie en plus?
Oui, bien en fait, ce qui arrive, c'est que ça fait à peu près 2 ans, donc c'était pas en temps de pandémie à ce moment-là. J'avais comme idée de faire des projets en musique et de faire une agence si c'était nécessaire éventuellement. Et donc, je travaillais plus sur des projets pendant un bout de temps, dont certains en Suisse. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, bien, surtout avec la pandémie, quand j'ai commencé à voir des artistes extraordinaires que je connais depuis longtemps qui disaient ben, « je vais peut-être devenir avocat ou je vais peut-être faire autre chose. »
Ah oui, qui pensaient de changer de carrière parce qu'il n'y avait rien qui se passait pour eux.
Ben oui, les musiciens se sentent un peu comme l'orchestre sur le Titanic. Hein, ils ont été un peu oubliés. Et puis, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pas simple avec les salles. On a vu dans le monde, comme à Zurich, à l'Opéra de Zurich, ils ont trouvé des solutions. Mais ça prend des solutions assez originales.
Quel genre de solutions ils ont trouvé à Zurich?
Un gros, gros câble qui allait à 15 km, je pense, de la maison d'opéra, qui est très petite, où ils ont pu connecter en real time là, la maison d'opéra avec un aréna qui est très à l'extérieur de la ville.
Ah ouais.
L'aréna avait, si je me souviens bien, les chœurs et le public. Tout le monde devait être distancié. Puis évidemment, les chœurs et le public, c'est à peu près la plus grande masse qu'on doit distancier. Alors que dans la petite maison d'opéra, il y avait les solistes, qui évidemment sont plus faciles à distancier, il y en a moins, et l'orchestre qui était, je pense, qui se sont arrangés pour pouvoir les distancier.
Alors, c'était pas en web diffusion, là, vraiment, puis ça se passait...
Non, ben, c'est-à-dire que comme c'était live, ils pouvaient pas le faire en... oui, c'est-à-dire que c'était peut-être en web diffusion, mais l'important, c'est surtout que...
Il y avait un public.
Quelque chose... Oui, ben c'est ça. C'est surtout qu'il y avait un public. C'est quand vous faites quelque chose sur Zoom sans public, ben c'est bien beau, mais il faut quand même faire une édition par la suite parce que il y a toujours un petit décalage entre chaque endroit. Souvent, il y a des choristes sur Zoom, il faut vraiment tout refaire. Mm-hmm. Ça prend 24 heures, 48 heures. Ce qui fait que pour le faire en direct et puis avec un public, ben ils se sont essayés et ça a été un succès. Mais je ne sais pas, c'est peut-être très compliqué. Je sais pas si on va devoir faire ça dans le futur, mais c'est un bel exemple quand même.
Bien, avec votre agence, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez donner de l'énergie, de la motivation? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour ces artistes-là?
Bien, premièrement, là, on peut donner de l'espoir, puis surtout, je veux dire, être prêt pour la transition. C'est-à-dire que, comme vous avez vu peut-être, les dernières semaines ont été peut-être les plus confuses au niveau des nouvelles à propos du COVID. Je veux dire, on parle de « the eye of the hurricane », l'œil de l'ouragan, comme quoi ça va être la fin du monde. Et puis, en même temps, on voit que les cas baissent. Alors, on a des contradictions.
Les cas baissent, mais il y a des variants qui sont tous, qui guettent.
Ouais. Qui vont être terribles et puis qui ont peut-être raison. Et peut-être que mais les variants sont là, puis un bout de temps, on dirait qu'ils accrochent pas autant qu'on pensait.
Alors, peut-être parce qu'il y a des mesures qui ont été de l'avant.
Mm. Oui, en effet, toutes les mesures sont utiles. C'est une pandémie, il faut la combattre avec tout ce qu'on a, évidemment.
Qui ont été mises et non mises. Pardon, j'accorde mon participe passé.
Oui. Je me demande si en pandémie, on a le droit de faire des erreurs. Comme ça. Mais il reste... donc, c'est ça. Nous, on veut juste être prêts. Donc, c'est à l'affût à tous les jours de ce qui se passe. Et puis, parce que ce qui va arriver pour la relève, là, c'est que finalement, il va y avoir beaucoup de productions qui ont été annulées, qui vont tout d'un coup revenir et qui vont avoir peut-être perdu certains de leurs musiciens ou certains de leurs chanteurs qui ont trouvé d'autres travails entre-temps. La plupart des maisons en ce moment disent aux gens qui sont déjà prévus, disent, écoutez, si vous trouvez autre chose, parce qu'on n'est pas certain si on va annuler, je parle surtout des choses qui vont se faire en avril, mai, juin, là, pour l'instant, souvent ils gardent ça ouvert, puis ils sont gentils pour les artistes, ils disent, écoutez, faites ce que vous pouvez, parce que nous, on ne sait pas toujours si on va pouvoir le faire ou non. Les gens essaient de ne pas trop se presser pour annuler, mais en même temps, il faut faire face à la réalité, surtout avec les confinements de 2 semaines.
Ouais.
Ça crée beaucoup de complications pour une maison d'opéra, ça.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour maintenir en vie l'activité?
Bien, c'est sûr qu'on regarde tout ce qui se passe au niveau streaming comme travail qui est disponible pour nos artistes. Mais on prévoit, vous savez, normalement une agence, ça prévoit en milieu classique, ça prévoit des contrats qui sont dans des fois certainement de 1 an à 3 ou 4 ans. Alors, on commence déjà à prévoir le futur, mais on essaie surtout, parce qu'on pense qu'il va y avoir des opportunités, des possibilités qui n'existent peut-être pas normalement, pour la période de transition, de placer ou de trouver du travail pour les gens de dernière minute. Pour ça que c'est, en fait, on a mis déjà sur le site Internet, notre site web, on a mis les répertoires de nos musiciens qui sont quand même assez étendus et on...
Il y a combien de musiciens dans votre agence qui s'appelle Forbes Artists?
Oui, Forbes, c'est comme forbes-artists.com sur le web. Mais il y en a 14. Vous n'avez pas eu le temps d'aller les voir.
Oui. C'est parce que là, je fais l'entrevue, alors je vous laisse donner les réponses, là, mais j'ai quand même pris le temps d'aller voir la plupart là, pour entendre ce que ça donnait. Puis il y a des chanteuses d'opéra extraordinaires, des jeunes personnes, là. Et il y a des bons musiciens. Et ils proviennent d'un petit peu partout à travers le monde.
Oui, ben on a un pianiste qui vient d'Argentine, on a une mezzo-soprano qui vient de Turquie, on a quelqu'un qui vient de Pologne. Il y a beaucoup évidemment qui habitent au Québec et qui sont ici en ce moment. Mm-hmm. Et puis il y a Stéphane Tétrault évidemment qui est très célèbre.
Mais c'est le seul moi que je connaissais dans le groupe là. Pas la connaissance que vous avez ou certaines autres personnes là dans. La relève en musique classique, je ne la connais pas beaucoup. Je m'en suis rendu compte hier, sur YouTube et assister à leur performance. Là, je me disais, faudrait que je m'ouvre à eux.
C'est drôle, hein, parce que c'est vraiment aussi, ça fait quand même longtemps que je regarde ce qui se passe en musique classique. Et des fois, j'ouvre justement ça. La même chose, je regarde puis je me dis, mon Dieu, mais je ne connaissais pas telle ou telle personne.
Il y en a tellement.
Oui, puis c'est ça, il y en a beaucoup. Mais je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, mais c'est parce qu'on les voit plus.
Oui.
On sait plus comment les trouver.
Mais en tout cas, si on veut avoir plus d'informations, parce que le temps est terminé pour notre entrevue, ça a été un plaisir d'échanger avec vous.
Je vous remercie infiniment. Puis en effet, les gens peuvent aller sur forbes-artist.com. Je m'excuse pour l'anglais, mais comme c'est international, c'est ce qu'il y a de plus simple.
C'est très bien. Je ne dis pas que c'est très bien. C'est très bien, cette entrevue.
Merci beaucoup.
Merci, puis bon succès.
Bonne journée.
Saluez toute votre équipe.
Merci bien. Au revoir.
Au revoir.